Giscard d'Estaing le dit lui-même, 4000 personnes dans la Galerie des Glaces, les appartements du roi et de la reine. Bon, je ne sais pas si c'était très sécurisant ou sécurisé pour les œuvres d'art, mais en tout cas, il y avait beaucoup de monde. Un événement a évidemment une place à part dans ces réceptions. Non, c'est pas ça. C'est le sommet du G7 de 1982. Alors, lorsque Mitterrand est élu, je regarde l'heure, hein, parce que... Ah oui, tout de même, je parle. Lorsque Mitterrand est élu en 1981, beaucoup ont dit « ça y est, c'est la fin de Versailles ». La gauche au pouvoir, c'est terrible, on va transformer ça en camp gauchiste, etc. Et bien en fait, Mitterrand est celui qui va donner au château de Versailles son plus grand événement international, diplomatique et politique, avec le sommet du G7. Giscard d'Estaing en 1975, qui est le premier à organiser un G6 à l'époque, aurait pu le faire à Versailles, il l'a fait à Rambouillet. Donc ce n'est pas lui qui a eu cette idée, c'est vraiment Mitterrand. Mitterrand fait de Versailles le lieu par excellence en France qui reçoit le monde entier. D'autant que il y a des spectacles, évidemment, à l'opéra, qui sont retransmis en mondiovision sur toutes les télévisions du monde entier. L'orangerie est transformée en salle de presse. Alors du coup, mondiovision, et en direct, on voit Ronald Reagan notamment qui s'endort un petit peu dans le spectacle. Alors il dira plus tard qu'il y avait le décalage horaire. Mais c'est vraiment une réception extraordinaire et qui mobilise évidemment l'ensemble du château. Alors là, vous allez me dire, pareil, hein, c'est trop petit. Donc imaginez, là on est au premier étage. Hein. Donc là, vous avez la galerie des batailles. Ici, en rouge, toutes les pièces utilisées par les chefs d'État pour salle de réunion, salle de débriefing, salle de café, salle à manger, bien sûr. La salle à manger donc étant dans le salon de la paix, la salle de réunion dans la salle du sacre, et puis de l'autre côté vous avez salle à manger donc pour les ministres des finances du G7, salle à manger pour les ministres des affaires étrangères. L'ensemble du château est mobilisé. Le G7, c'est l'apogée, mais aussi le champ du cygne des réceptions à Versailles, parce qu'après 1982, l'usage de Versailles va vraiment aller décroissant. Pour plusieurs raisons. D'abord, Versailles, c'est un lieu ouvert à la visite, et avec de plus en plus de visiteurs. Aujourd'hui, on doit être à 5 millions, quelque chose comme ça. À l'époque, on est à 2 millions, donc ça va vraiment crescendo. Recevoir à Versailles est une contrainte qui est évidemment extrêmement forte. Pour le G7, par exemple, le Grand Trianon est fermé du 1er mai au 14 juin, un mois et demi. Et le château et le parc, eux, sont fermés du 24 mai au 7 juin. Plus de 15 jours. Pareil, lorsque le roi d'Arabie Saoudite, qui est reçu au Grand Trianon pendant 3 jours, hein, pendant son séjour, il ne sort absolument pas du Grand Trianon pendant 3 jours, donc impossible de faire visiter le parc et le Grand Trianon pendant ces 3 jours-là. En outre, Versailles, bah, c'est pas Paris. Hein, et ça, alors ça n'a pas changé hein, par rapport à 1789. Paris est loin, le peuple de Paris le reprochait évidemment au roi. On va reprocher, notamment les fonctionnaires et ainsi que les ambassades, eh bien, d'avoir ce lieu un petit peu loin, pas très pratique, lorsqu'il faut revenir à Paris pour une conversation diplomatique, etc. Lorsqu'une soirée est organisée à Versailles, il faut bloquer les accès Paris-Versailles le soir de 19h à 21h. Et pareil, dans le sens retour, de 23h à minuit. Avec l'augmentation de la circulation automobile, on imagine évidemment l'exaspération des usagers de l'autoroute A13. Dernier argument pour la décroissance de ces visites, c'est le format des visites officielles, tout simplement, qui change, qui se raccourcit, et qui laisse de moins en moins de place aux soirées de gala à l'extérieur de Paris. On se contente généralement d'un dîner à l'Élysée, d'un dîner retour, le cas échéant, à l'ambassade, mais c'est tout. Versailles ne fait plus recette et les seuls avatars de visites qu'on aura seront des visites en fait privées. Alors je vous en ai mis une, surtout c'est évidemment Kadhafi en 2008, venu en visite privée à Versailles. Il était en visite évidemment officielle en France, mais Versailles n'était pas dans le programme de visite officielle. Et il n'a d'ailleurs pas été reçu par le président de la République, mais par le président de l'établissement public, Jean-Jacques Ayagon. En revanche, le président chinois, lui, l'année dernière, est reçu pour un dîner officiel, mais qui est un dîner, il y a eu une réception à l'opéra, mais le dîner réunissait trois personnes, le président, son épouse et François Hollande, et a eu lieu au Grand Trianon. Alors évidemment, c'est une marque de faveur qu'on fait pour le président chinois, mais on est très loin, très très loin des dîners de gala des années 70-80. Dernier point, c'est vivre, recevoir à Versailles, c'est bien, mais recevoir chez soi, c'est mieux. Ça, vous le savez. Alors, je ne reviens pas sur le logement du parlementaire. En revanche, lorsque De Gaulle s'intéresse au Grand Trianon, il s'y intéresse d'abord exclusivement pour ses homologues étrangers, mais rapidement, la question de son propre logement est ouverte. Deux possibilités. La première consiste à aménager un logement temporaire au Grand Trianon pour le temps où un chef d'État étranger est logé au Grand Trianon. De Gaulle aurait dit « Je ne peux pas recevoir si je ne suis pas chez moi ». Bon, qu'à cela nous tienne, on va aménager un logement pour le président de la République qu'on envisage d'abord dans les petits appartements de l'empereur, donc dans cette aile-ci. Et puis finalement, ce n'est qu'en 1964, donc 3 ans après les premières réflexions, qu'on va songer à l'aile de Trianon-sous-Bois tout en haut. La seconde possibilité consiste même à déménager complètement, voilà, l'aile de Trianon-sous-Bois, en 1966, c'est le rez-de-chaussée. Vous voyez, la galerie des Cotels est ici, on y arrive par ici. La seconde possibilité, on y réfléchit très sérieusement, consiste à déménager complètement la présidence de la République à Versailles. On le sait, De Gaulle n'aimait pas le palais de l'Élysée. Lorsqu'il visite à l'improviste en 1961 le château de Versailles avec Malraux, il dit à Van der Kemp et Jean-Louis Humbert, je cite, « Il faut admettre que le chef d'État est mal logé à l'Élysée, qui est trop petit et placé au milieu des automobiles. » Bon, c'est un argument comme un autre. « Il n'est pas impossible d'envisager que le chef de l'État vienne un jour habiter à Trianon. » C'est ce que De Gaulle confie aux conservateurs. À la même époque en plus, un lieu plutôt sympathique est à vendre, pour 1,5 milliard, c'est l'hôtel Trianon Palace. Et du coup, très rapidement, des projets se montent pour héberger le chef de l'État au Grand Trianon et les services de la présidence à l'hôtel Trianon Palace. Finalement, ça ne se fera pas, je pense, pour des raisons d'abord budgétaires, mais aussi, évidemment, surtout symboliques. Imaginons le chef de l'État, je peux vous remettre la caricature, hein, disant, bah oui, finalement, l'Élysée, c'est pas génial, on va s'installer au Grand Trianon. Donc ça aurait fait probablement désordre dans l'histoire de la République. C'est donc la première solution qu'il emporte, avec une installation du président de la République dans l'aile de Trianon-sous-Bois, que De Gaulle, finalement, n'utilisera jamais, et aucun, ou quasiment aucun de ses successeurs. Un seul va utiliser, et plutôt pas mal, Trianon-sous-Bois, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing a beaucoup apprécié Trianon, et il y a passé de très nombreux week-ends lorsqu'il était président de la République. Il faut attendre 1999 pour que la présidence décide officiellement d'abandonner Trianon-sous-Bois et de l'ouvrir au public. Trianon-sous-Bois n'est jamais apparu dans la liste des résidences officielles. C'était un lieu où on pouvait dormir en cas de besoin, mais ça n'était pas une résidence officielle. Donc c'est Jacques Chirac qui, en 1999, dit « on n'en a plus besoin, vous pouvez l'ouvrir à la visite ». Et c'est en 2008 que Trianon-sous-Bois est officiellement restitué. Un deuxième lieu important dont on parle beaucoup plus, c'est évidemment, c'est tout aussi charmant, le pavillon de la Lanterne. Pour ceux qui n'ont jamais vu de photo aérienne de la Lanterne, c'est charmant. C'est plus grand que chez moi. Voilà. Alors, les premiers ministres actuels auraient pu jouir de la Lanterne en toute simplicité et discrétion si quelqu'un, un président de la République, Nicolas Sarkozy, n'avait pas eu l'idée saugrenue et subite de vouloir également en profiter. Le problème, c'est qu'il a voulu le faire à une époque où l'information, le tout information, est évidemment extrêmement fort. C'est-à-dire, à l'heure d'Internet, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'hypermédiatisation, le putsch que Nicolas Sarkozy a fait sur le pavillon de la lanterne, a amené la lumière sur un pavillon qui jusque-là était finalement très peu connu. Lorsque la lanterne a été mise à disposition du Premier ministre en 1959, alors après une bataille homérique d'ailleurs avec Jacques Chaban-Delmas. Chaban-Delmas, qui était président de l'Assemblée nationale, voulait lui aussi une résidence secondaire, et c'est De Gaulle qui tranche en faveur de Michel Debré. Évidemment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'hypermédiatisation, et donc ça s'est fait très discrètement. Alors, on dit pavillon de la lanterne, bon, c'est un grand mot, ou un petit mot pour une grande réalité, hein, un parc privé de plusieurs hectares, à l'abri des regards, proche de Paris. Et en outre, doté, on peut le voir, d'une piscine et d'un terrain de tennis, grâce à Michel Rocard, qui a eu le bon coup de le faire, évidemment à l'heure où à nouveau Internet n'existait pas, l'hypermédiatisation n'existait pas. Aujourd'hui, imaginez le Premier ministre dire « Bon, je vais aménager une piscine à Matignon parce que j'ai besoin de faire quelques brasses », je pense que ça ferait à nouveau désordre. Jusqu'en 2007, la lanterne, on n'en parlait pas. Il y a eu un article à l'époque des Debré, je crois que c'était dans Jour de France, où on voit l'intérieur du pavillon de la lanterne. Il y a eu quelques articles au moment de la piscine et du tennis dans le Canard enchaîné, mais c'est tout, et c'est retombé très rapidement. Et puis deux livres à ma connaissance de mémoire qui en parlaient, celle d'Alain Decaux qui était ministre de la francophonie sous Rocard et qui évoque le pavillon de la lanterne, et celui de Sylviane Agadinski, l'épouse de Lionel Jospin, qui dit qu'ils ont passé des moments formidables à lanterne. Personne dans le grand public ne connaissait l'existence et l'usage du pavillon de la lanterne. C'était un usage donc quasi strictement privé. Certains y ont fait un peu de... Y ont travaillé, c'était le cas de Raffarin qui a fait plusieurs réunions de travail. Mais sinon, c'était un usage de loisir. Les premiers ministres se sont installés à Versailles, dans le domaine de Versailles, pour y habiter. Lionel Jospin y passait tous ses week-ends, quasiment tous ses week-ends. Je n'en fais pas un jugement, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un constat. La République s'installe dans le domaine de Versailles. Nicolas Sarkozy donc le récupère de manière assez médiatique, et lui, pour le coup, en fait à la fois une résidence et un lieu de travail. C'est là qu'il constitue, vous en souvenez, son gouvernement en 2007. Il l'a piqué avant d'être investi président de la République. Il a dit à Dominique de Villepin, prête-moi la lanterne, là j'ai besoin de constituer un gouvernement. Il y accueille Gordon Brown en 2008, avec des journalistes qui, pour la première et la dernière fois, sont accueillis dans la cour de la lanterne. Le centre du pouvoir exécutif à Versailles s'est donc déporté. On n'est plus ni à Trianon, ni au château. On est vraiment à la lanterne. Et le président de la République, puisqu'évidemment, vous le savez, François Hollande n'a pas restitué la lanterne à son Premier ministre, il l'a gardée, tant qu'à faire. Je crois que j'aurais fait comme lui. Donc ce pouvoir politique est déporté, on peut dire relégué, à la lanterne. Troisième et dernière partie, le goût de Versailles. Comment les présidents de la République, finalement, ont apprécié Versailles, ont fait de Versailles un outil politique, on l'a vu, mais également un outil de passion, le cas échéant personnel. On l'a vu, hein, on a parlé de Nicolas Sarkozy au pavillon de la lanterne. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que Nicolas Sarkozy a probablement voulu officialiser sa relation avec Carla Bruni au château de Versailles. Vous en souvenez peut-être, l'officialisation de la relation, c'est la presse. On a vu des photos de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni à Disneyland. Disneyland Paris, et on s'est dit, ah tiens, ces deux-là se connaissent plutôt bien. Et en fait, quelques jours plus tôt, ils ont fait la même chose au château de Versailles. Un jour ouvert à la visite, j'imagine un samedi ou un dimanche, ils étaient probablement au pavillon de la lanterne, hop, on traverse le mur, il y a une petite porte qui donne dans le parc, ils ont prévenu le président de l'établissement public, on vient en visite, voilà, avec Carla Bruni. Les gens étaient là, ont pris des photos, et ça n'a pas filtré. Ça montre quand même que Nicolas Sarkozy avait ce goût de Versailles, ou a ce goût de Versailles, et qu'il a voulu, à des fins personnelles, de communication probablement, mais de communication personnelle, pas d'action politique, utiliser le château de Versailles, donc ça n'a pas fonctionné. L'intérêt des présidents, évidemment, et plus largement des politiques, se manifeste dès le début de la République pour le château de Versailles, à plusieurs reprises au cours du XXe siècle, l'implication du monde politique est évidemment fondamentale pour sortir le château de Versailles du marasme. Je ne sais pas pourquoi après, c'était pas dans l'ordre. Voilà, je vous la remets. Je savais que j'avais une photo de la reine Elisabeth II en 1957. Donc avec René Coty. Donc on va sortir Versailles du marasme, le monde politique. Alors moi j'ai deux cas dont je vais parler. Le premier c'est un ministre de l'instruction publique qui s'appelle Léon Bérard. Alors, ça ne dit, je pense, strictement rien à beaucoup d'entre vous, parce que Léon Bérard n'a pas eu une carrière extraordinaire, hein, il a juste été ministre. Et bien il prend fait et cause pour le château de Versailles lorsqu'il est ministre, au début des années 1920, le château de Versailles qui est dans un état épouvantable. Et donc tout de suite, il visite le château à plusieurs reprises, il débloque des crédits, en particulier pour la restauration du char d'Apollon, et surtout, il va essayer de mobiliser son réseau. Il sait que le gouvernement a peu de moyens, donc il mobilise son réseau, il demande aux gens d'organiser des soirées de charité, etc. Et mine de rien, même si ça n'est pas lui directement qui en est la cause, mais c'est une des soirées de charité organisées à sa demande, le 30 juin 1923, qu'assiste un type qui s'appelle John Rockefeller. 30 juin 1923, quelques mois plus tard, Rockefeller envoie un chèque au château, enfin au ministre de l'instruction, enfin au président du conseil même, j'en parlerai, en disant ben voilà, j'ai visité le château de Versailles, ça n'est pas possible, on va donner les sous. Donc, surtout Versailles, et également, vous le savez, un petit peu pour la cathédrale de Reims et pour le château de Fontainebleau. C'est une autre histoire, j'en reparlerai si certains d'entre vous veulent connaître les secrets de Rockefeller. J'avais, quand je faisais ma thèse, étudié les archives de la fondation Rockefeller aux États-Unis. C'est assez intéressant. Alors, cela dit, sur Rockefeller, la grande croix de la Légion d'honneur qui lui est accordée par le président Albert Lebrun à la fin des travaux de restauration Rockefeller dans les années 30, en 1937 de mémoire, c'est un signe, 1936, c'est le signe que le politique va reconnaître Versailles au plus haut niveau, puisqu'on décerne au plus grand mécène du plus grand château la plus haute distinction que la France peut accorder, c'est-à-dire la Grand Croix de la Légion d'honneur. Ce qui, pour un étranger qui n'est pas chef d'État, est évidemment rarissime. La seconde manifestation de l'intérêt du politique en général pour l'ancienne demeure des rois de France, c'est la sauvegarde du château de Versailles. J'en parlais un petit peu avec André Cornu dans les années 1950. Plus encore que dans les années 20 avec Bérard, le rôle d'André Cornu est fondamental. En 1952, c'est lui qui lance un appel au peuple en disant « Versailles s'écroule », vous allez me dire, ça arrive tous les 30 ans. Hein. « Versailles s'écroule », et c'est le secrétaire, il est secrétaire d'État aux Beaux-Arts, il se fait le porte-parole du château en danger, en multipliant les interventions à la radio, les interviews dans les journaux, et en faisant appel à la générosité publique. Et c'est vraiment grâce à cette opération lancée par le politique vers donc un mécénat populaire, on n'appelle pas ça du crowdfunding encore, mais c'est un petit peu ça, c'est ça qui va sauver le château de Versailles dans les années 50, à nouveau avec la contribution d'ailleurs des fils Rockefeller. Alors, dans ces interventions politiques, il y a évidemment une dimension politique. Léon Bérard, par exemple, dans les années 20, est proche des mouvements nationalistes. En particulier de la droite maurrassienne, monarchiste, et donc il y a cette idée que la République ne réussit pas à entretenir le château de Versailles. Plus globalement, donc il y a ce point de vue, hein, qui est probablement celui de Bérard, plus globalement, il y a aussi la vision d'une politique globale, d'une politique générale, c'est le sens gaullien de la France et la geste gaulliste d'utiliser le château de Versailles pour les besoins de la République. C'est ce qui anime probablement d'ailleurs tous les présidents de la Ve République lorsqu'ils ont investi le château de Versailles, en contribuant, alors en l'utilisant pour des besoins de réception, mais également en contribuant de manière très abondante aux restaurations du château de Versailles. Versailles est notamment l'un des grands gagnants des lois-programmes. Vous savez que Malraux et ses successeurs lançaient des lois-programmes pour restaurer le patrimoine. Grand coup de lois-programmes. Versailles est l'un des grands gagnants des lois-programmes Malraux, et notamment de la première, puisque en chiffres, la loi Malraux est de 62, 31 juillet 1962, 80 millions sont affectés au château de Versailles, dont une bonne partie, évidemment, servira pour le Grand Trianon. Contre donc 80 millions pour Versailles, 40 pour Fontainebleau, 20 pour le Louvre, 12 pour les Invalides, 11 pour Chambord, 10 Vincennes et 7 pour la cathédrale de Reims. Donc Versailles est vraiment le grand gagnant. La troisième loi programme en 78 favorise également Versailles, qui se retrouve deuxième monument en dotation, avec 89 millions de francs pour les aménagements muséographiques, donc en 78, dont la réalisation de l'escalier de l'aile Gabriel, que vous connaissez, et 95 millions pour les travaux d'architecture. L'intervention là de Giscard d'Estaing est primordiale. C'est lui qui a dit « je veux qu'il y ait Versailles dans les monuments les mieux dotés ». L'implication du politique a également un impact sur les actions scientifiques, et je pense notamment au remeublement. Je ne vais pas faire un exposé sur le remeublement ou l'histoire du remeublement. Sur le remeublement, il y a des spécialistes, notamment au château, qui sont bien plus experts que moi. Et l'histoire du remeublement que j'ai un petit peu étudié, ce n'est pas l'objet, mais il est certain que dans cette opération qui consiste, vous le savez, à essayer de retrouver la trace des meubles, des œuvres d'art qui se trouvaient au château de Versailles avant la Révolution française, l'intervention du politique est fondamentale. Au-delà des scientifiques qui ont conçu théoriquement le remeublement, et vous connaissez les noms évidemment de Pierre Verlet. Pierre Verlet, c'est celui qui a écrit le fameux livre sur le château de Versailles chez Fayard, c'est le grand spécialiste de l'histoire de Versailles et du remeublement. Maurice Beaupré, donc conservateur à Versailles, son successeur Gérald Van Nergen, c'est la politique qui permet le remeublement. Le premier, c'est Georges Huysmans. Georges Huysmans est directeur général des Beaux-Arts dans les années 30, et c'est lui qui va donner l'impulsion aux conservateurs du musée en disant « il faut qu'on offre un château meublé au public ». Il y a évidemment cette idée d'offrir quelque chose au public, hein. C'est pas une politique complètement désintéressée, mais il y a tout de même cette idée d'accompagner le scientifique par un geste politique. Les personnalités suivantes qui vont aider en cela sont évidemment Michel Debré, Premier ministre, et le général de Gaulle, qui favorisent le retour du mobilier d'origine royale à Versailles, en particulier avec un décret qu'on appelle le décret Debré, donc pris au plus haut niveau du gouvernement, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre, le 13 février 61, et qui dit que tous les meubles d'origine versaillaise ou de château détruit, type Saint-Cloud, Meudon, etc., Marly, tous les meubles qui proviennent de ces châteaux, qui en ont été distraits au moment de la Révolution, et qui se trouvent conservés dans des institutions françaises, préfectures, ambassades, ministères, mobilier national, doivent retourner à Versailles. C'est un décret politique qui va décider cela. Ce n'est pas une entente de personnalité scientifique, c'est vraiment le Premier ministre et le Président de la République qui vont le décider. Alors les musées, évidemment, sont un petit peu, notamment le Louvre, vous savez qu'il y a une guerre fratricide entre le Louvre et Versailles, notamment à cette époque-là, et notamment entre Pierre Verlet et Gérald Van Derken, c'est également une autre histoire. Le Louvre va tout faire pour résister à ça, parce que le Louvre a beaucoup de pièces de mobilier et d'œuvres d'art qui se trouvent à Versailles. Et il va tout faire, mais, à nouveau, l'intervention du général de Gaulle, parfois en faveur de Versailles, va être déterminante. Je ne donne qu'un exemple, c'est le Salon d'Hercule. Vous connaissez le Salon d'Hercule. Alors, j'ai pris une photo sur Internet, et c'est pour ça que j'ai mis le... Je trouvais que la photo était très belle, c'est la plus belle photo hein, du diapo. D'un monsieur Ternisien qui, je crois, a sorti un livre l'année dernière de photos sur le château de Versailles, et c'est pour ça que j'ai mis son nom. S'il est dans la salle, je m'en excuse. Mais après, je ne le diffuse pas. Hein. Donc, le salon d'Hercule que vous connaissez, eh bien, jusqu'en 1961, le repassé chez Simon de Véronèse se trouve conservé au musée du Louvre. Le tableau de Véronèse donc, a été transféré à Versailles en 1712, installé dans le salon d'Hercule en 1729, conservé depuis 1832 au Louvre. Et lorsqu'on restaure le salon d'Hercule, Van Derken se dit « Bah, quand même, on va évidemment demander le retour du salon du repas chez Simon, donc de Véronèse. Le conservateur des peintures du Louvre, qui s'appelle Germain Bazin, est évidemment furieux et dit non. Et donc on lui demande un rapport en disant « Mais oui, mais pourquoi êtes-vous contre ?» Alors il dit « Ben voilà, je vais vous faire un rapport sur l'hypothétique restitution du tableau. Les avantages de la restitution du tableau tiennent dans le rapport en trois lignes. Hein, restitution originelle du salon d'Hercule, voilà. Il développe un peu, ça fait trois lignes. Les inconvénients tiennent en sept pages. Et c'est l'intervention du général de Gaulle qui va permettre de trancher en disant « Non, mais dans le cadre des restitutions historiques, artistiques du château de Versailles, eh bien, je souhaite personnellement que le repas chez Simon puisse revenir à Versailles. » Et donc, il revient à Versailles dans une caisse. Alors, la photo est très mauvaise, là, pour le coup. Donc, ça, c'est le repas chez Simon, évidemment, qui ne passe pas par l'escalier. Et donc, on a été obligé, enfin, l'architecte, de démonter le châssis de la fenêtre, la caisse étant passée à 2 cm près. Puisque Germain Bazin avait dit, dans les 7 pages d'inconvénients, évidemment, on ne peut pas le rouler. Vous imaginez bien, donc on sera obligé de le transporter tel quel. Pas de souci pour Van der Kemp, on le transporte tel quel. Alors évidemment, Van der Kemp, c'est la conclusion de l'histoire du tableau, dit « Lorsque le Louvre, à son corps défendant, a décidé, il n'a rien décidé, de restituer le repas chez Simon de Véronèse, les visiteurs de Versailles ont été émerveillés de retrouver ce tableau dans son cadre d'origine, et le Louvre n'a pas vu de ce fait un visiteur de moins dans ses galeries italiennes. » Je vais bientôt conclure. Juste un exemple pour le goût de Versailles avec un président quand même qui a particulièrement apprécié Versailles, c'est évidemment Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing a soutenu personnellement l'ensemble des initiatives scientifiques menées au château de Versailles, à la fois en matière de restauration, de restitution, d'événements, d'inauguration. Et au-delà du soutien, c'est sa présence à chacun des événements versaillais qui est à noter. C'est le cas de la Chambre, pour l'inauguration de la Chambre du Roi en 1980. On reconnaît au milieu donc Gérard Van der Kemp à côté du président Giscard d'Estaing. Et alors il y a une scène évidemment assez drôle où évidemment toute la foule rentre, enfin la foule pour l'inauguration rentre dans la chambre, et c'est le président lui-même qui va ouvrir la balustrade pour passer seul du côté de l'espace sacré. Donc, l'image du président de la République qui ouvre la balustrade pour se retrouver du côté du lit, c'est évidemment un geste très, très monarchique, que la presse de l'époque n'avait pas manqué de souligner. En 1978, si les salles Empire sont touchées par un attentat, vous vous souvenez qu'il y a eu un attentat des autonomistes bretons en 1978 qui a abîmé une partie des salles Empire, c'est que ces salles Empire, évidemment, étaient touchées. Le château était un symbole, évidemment, d'attaque, mais de manière générale, c'est aussi parce que ces salles venaient d'être inaugurées par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, quelques semaines auparavant. Et donc, en touchant le château de Versailles, les autonomistes bretons ont également voulu toucher le pouvoir républicain et l'image du président de la République. Pour conclure, parce que vous allez dire que j'ai été trop long, je voudrais raconter une dernière histoire, et cette fois-ci, c'est votre histoire. Parce que j'imagine que vous êtes tous, quasiment tous, membres, adhérents de la Société des Amis de Versailles. La création de la Société des Amis de Versailles en 1907, c'est une histoire de politique également. C'est une histoire qui marie la politique idéologique, celle qui a prévalu à la défense d'un Versailles qu'on imaginait délaissé, abandonné, notamment par la République. Le journal qui prend fait et cause pour la création de la société en 1907, c'est L'Écho de Paris, qui est un journal proche des milieux monarchistes, à nouveau d'une droite assez traditionnelle, voire traditionnaliste, maurassienne. Et donc, il y a un geste politique de dire... Eh bien, la République ne s'occupe pas du château, eh bien, nous, association, Société des Amis de Versailles, nous allons nous en occuper. Donc, ça, d'un côté, la politique idéologique, et de l'autre, la politique qui va envisager Versailles comme un tout national. C'est la maison de la nation, et j'en veux pour preuve la participation à la création de la Société des Amis de Versailles, dès 1907, de deux personnalités marquantes de la République, que sont évidemment Raymond Poincaré et Alexandre Mirand. Raymond Poincaré et Alexandre Mirand sont, alors pour le coup j'ai pas retrouvé d'archives dessus strictement, mais la tradition le dit, et on a quelques témoignages assez anciens qui le confirment, sont ceux qui ont rédigé les premiers statuts de la Société des Amis de Versailles. Raymond Poincaré et Mirand, et Alexandre Mirand, ces années-là, sont déjà des personnalités politiques en vue. Ils ont déjà été ministres, ils sont parlementaires. leur participation à la Société des Amis montre combien le monde politique républicain considère le château de Versailles comme un ensemble national et pas uniquement comme le symbole ou de la monarchie ou de la République, mais de manière générale comme un tout et comme une histoire qui continue. Alexandre Mirand devient d'ailleurs le deuxième président de la Société des Amis de Versailles en 1912 jusqu'en 1920. Poincaré, lui, est vice-président d'abord, puis élu en 1913 président d'honneur, puisqu'il devient président de la République, et donc il devient président d'honneur de la Société. Et d'ailleurs, l'élection à la présidence de la République de Raymond Poincaré, alors Raymond Poincaré, on ne le voit vraiment pas, là, il est illusoire. Il est ici, hein, Alexandre Mirand est ici. Raymond Poincaré est élu au tout début de l'année 1913, et de manière fort opportune, la Société des Amis de Versailles est déclarée d'utilité publique, eh bien, 4 mois après. Comme quoi, ça vaut le coup d'avoir un président de la Société qui soit en même temps président d'honneur, vice-président de... enfin, président de la République, qui soit président d'honneur et vice-président de la Société des Amis de Versailles. De même, Mirand, qui quitte son poste en 1920, lorsqu'il est élu président de la République à cette occasion-là, eh bien, il accorde en 1922 la gratuité de la visite de Versailles et des musées nationaux aux membres de la Société des Amis de Versailles. 1922, c'est la date où on met en place un droit d'entrée pour visiter les musées, et il y a quelques exceptions, quelques exonérations, eh bien, on va accorder cette exonération aux membres de la Société des Amis de Versailles. Il redevient président, vous le savez, de la Société en 1926 jusqu'en 1943. Dernière anecdote sur ces présidents et la Société des Amis de Versailles. Lorsque Rockefeller adresse sa lettre le 3 mai 1924, disant qu'il donne des millions pour le château de Versailles, c'est pas trop à qui l'adresser parce que la France connaît une crise politique. Mirand, qui est président de la République, est mis en minorité. Poincaré, qui est président du Conseil, donc Premier ministre, est démissionnaire, mais continue d'assumer les fonctions de président du Conseil dans l'attente de la nomination d'un gouvernement. Et donc, finalement, Rockefeller va écrire à Raymond Poincaré, président d'honneur de la Société des Amis de Versailles, président du Conseil et ancien président de la République, en lui disant « Eh bien, voilà, je vous donne cet argent. » Eh bien, la dernière lettre, probablement l'une des dernières lettres, écrite par Raymond Poincaré en tant que président du Conseil, c'est la lettre par laquelle il accepte ce don et par laquelle il remercie évidemment Rockefeller. C'est une lettre du 28 mai 1924 et il démissionne le 1er juin. Avec ces deux personnalités sur lesquelles on va conclure, et en dehors de la Société des Amis de Versailles, on les a un peu oubliés, Mirand et Poincaré, on a des présidents de la République qui ne se sont pas contentés d'utiliser le château de Versailles, mais qui l'ont défendu, qui l'ont soutenu, parfois propre, contre leur propre conviction politique. Hein. On a des cas dans le cours du siècle. En tout cas, c'est le signe que Versailles reste intimement lié à la République, créé par la monarchie sous l'Ancien Régime. Il reste, le château de Versailles reste, après 1870 et l'instauration du régime républicain, finalement la demeure de la France. Voilà. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Il y a peut-être des questions. N'hésitez pas.
Moi, je peux en poser une.
Ah.
La lanterne, c'est date de quelle époque ?
Alors, la lanterne, c'est un bâtiment du XVIIIe siècle, de mémoire plutôt des années 1770-1780, donc 18e tardif, plutôt règne de Louis XVI. Je vais essayer de remettre... hop là, voilà des photos. On est dans un... Alors, le bâtiment est très beau, et moi, j'en ferai ma demeure sans problème. Après... c'est pas non plus extraordinaire. C'est un petit pavillon qui a été construit par, je crois, le gouverneur de Versailles, donc le prince de Poix, et qui voulait disposer d'une petite demeure au milieu du parc. Ça n'a rien pour le coup de fastueux et de luxueux. Pour le coup, c'est entre guillemets assez simple, pour autant qu'un bâtiment 18e puisse être, selon nos critères du jour, simple.
Pourquoi la lanterne ?
Alors, pourquoi la lanterne ? Alors, il y a probablement plusieurs explications. Celle qui, qui recueille le plus d'adhésion, c'est que les pièces du corps central ici donnent de part et d'autre, côté cour et côté jardin, ce qui fait qu'on est comme dans une lanterne qu'on tient, avec toutes les pièces qui sont éclairées de part et d'autre, en éclairage traversant, comme on dit dans l'immobilier. Voilà. C'est probablement l'explication. Une autre explication tiendrait à l'existence d'un lanternon au sommet du toit, mais c'est assez improbable, et c'est certainement pas, en tout cas, la chanson « Les aristocrates à la lanterne », parce que ce bâtiment était complètement insignifiant au moment de la Révolution française.
À l'entrée de la lanterne, il y a deux piliers à tête de cerf.
Tout à fait.
Qui sont les restes de la ménagerie de Louis XIV.
Tout à fait. Qui était d'ailleurs juste à côté. Pas de questions, c'est que vous avez tout compris. Dans ce cas-là, c'est réussi.
Merci.
Non, merci à vous de votre attention. Voilà. Et à votre disposition, si certains d'entre vous veulent continuer la découverte de ce Versailles des présidents. Donc il faut que j'aille là-bas, c'est ça ?
Oui, oui, oui.
C'est là-bas que ça se passe.
Vous n'avez plus rien à récupérer
Non, c'est bon.